Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Short Stories.
Aujourd'hui, dans Short Stories, Liliane Dazin vous propose la suite de la nouvelle Champion du monde de l'auteur Roald Dahl. Une nouvelle que vous pourrez retrouver dans son ensemble, évidemment, sur notre site internet www.radiograndciel.fr à la rubrique Short Stories.
Une vaste tache de ciel apparut au-dessus de nous, en haut de la forêt. Je savais que c'était la clairière dont Claude m'avait parlé. C'était l'endroit où l'on introduisait les jeunes oiseaux dans la forêt au début du mois de juillet. C'est là que les gardiens les nourrissaient, les soignaient. Beaucoup d'entre eux y demeuraient jusqu'à l'ouverture de la chasse. « Il y a toujours plein de faisans dans la clairière, m'avait dit Claude. Et plein de gardiens, je suppose. Oui, mais les buissons sont épais, ça arrange les choses. Nous avançons à petits bonds à quatre pattes d'un arbre à l'autre pour nous arrêter, pour écouter, pour nous mettre à ramper. Puis nous nous trouvâmes agenouillés devant un aulne touffu juste en bordure de la clairière. » Claude avait un large sourire. Il me donna un coup de coude dans les côtes, puis me montra du doigt les faisans à travers les branches. L'endroit était plein à craquer d'oiseaux. Ils étaient au moins 200 et ils se pavanaient entre les troncs d'arbres. « Tu les vois ?» chuchota Claude. C'était un spectacle étonnant. On eût dit le rêve d'un braconnier devenu réalité. Et si près de nous, quelques-uns n'étaient qu'à 10 pas de l'endroit où nous nous tenions à genoux. Les faisanes étaient rondes, d'un brun crémeux, si grasses que le plumage de leur poitrine frôlait le sol quand elles se déplaçaient. Mais les faisans mâles étaient sveltes et beaux, avec leurs longues queues et leurs taches rouges autour des yeux comme des lunettes écarlates. Je regardais Claude. Sa grosse face bovine était comme transfigurée, la bouche entrouverte, les yeux vitreux. Je crois que tous les braconniers réagissent à peu près de la même façon. Ils sont comme des femmes devant une vitrine de joaillier plein d'énormes émeraudes. La seule différence, c'est que les femmes ont beaucoup moins de dignité dans les procédés auxquels elles ont recours pour s'approprier l'objet de leurs rêves. Le cul de braconnier, cela n'est rien comparé à ce qu'une femme est prête à endurer. « Ah ah !» dit doucement Claude. « Tu vois le gardien ?»« Où ?»« De l'autre côté, près du grand arbre. Fais attention. »« Mon Dieu ! Ça va, il ne nous voit pas. » Accroupis au sol, nous quittions pas des yeux le petit homme porteur d'une casquette et d'un fusil. Il était immobile comme un mannequin. « Sauvons-nous, » dis-je à voix basse. Il s'assit sur un banc moussu sous la haie et alluma une cigarette. Le soleil avait disparu et le ciel était gris fumé et légèrement doré. Derrière nous, la forêt devint grise, sombre, puis noire. « Ça met combien de temps à agir ton somnifère ?» demanda Claude. « Regarde, » dis-je, « il y a quelqu'un. » L'homme avait surgi en silence à 30 mètres de nous, se découpant sur le ciel sombre. « Encore un de ces maudits gardiens, » dit Claude. Le gardien descendit le chemin pour venir vers nous. Il avait un fusil de chasse sous le bras et il était flanqué d'un grand chien noir. À quelques pas de nous, il s'arrêta et le chien s'arrêta aussi pour rester à l'arrière-plan et pour nous épier à travers l'écart des jambes du gardien. « Bonsoir, » dit Claude d'une voix amicale. Le bonhomme était grand et osseux, la quarantaine, l'œil vif, la mâchoire dure et de grandes mains redoutables. « Je vous connais, » dit-il doucement en approchant, « je vous connais tous les deux. » Claude ne répondit pas. « C'est vous les pompistes, pas vrai ?» Ses lèvres minces et sèches étaient couvertes d'une sorte de croûte sombre. « C'est vous, Cabbage et Hose, les pompistes de la route nationale, pas vrai ?»« On joue au jeu des 20 questions ?» demanda Claude. Le gardien émit un gros crachat que je vis atterrir dans la poussière à 6 pouces des pieds de Claude. « Allons, filez, » dit l'homme, « et en vitesse !» Mais Claude resta assis en fumant sa cigarette, les yeux fixés sur le crachat de l'homme. « Allons, dit l'homme, sortez d'ici !» Quand il parlait, sa lèvre supérieure découvrait la gencive et une rangée de dents ternes, dont une toute noire et les autres brunâtres. « Il se trouve que c'est un chemin public, dit Claude, ayez la gentillesse de nous laisser en paix. » Le gardien changea son fusil d'épaule. « Vous êtes en train de rôder, dit-il, c'est louche. Je pourrais vous emmener si je voulais. »« Non, vous ne pouvez pas, dit Claude. » Tout cela me rendit plutôt nerveux. « Je vous ai déjà rencontré par ici, vous, » dit le gardien en regardant Claude. « Il se fait tard, » dis-je, « alors on s'en va ?» Claude éteignit sa cigarette, se leva lentement. « Bien, » dit-il, « allons-y. Nous descendîmes le chemin par où nous étions venus, laissant le gardien derrière nous dans le noir. « C'est le gardien-chef, » dit Claude. « Il s'appelle Rabbits. »« Que le diable l'emporte, » dis-je. « Viens, entrons ici. » Il y avait une petite porte à notre gauche. Elle donnait sur un champ et nous entrâmes pour nous asseoir derrière la haie. « Monsieur Rabbits est pressé de dîner, » dit Claude. « Ne t'inquiète pas. » Nous restâmes tranquillement assis en attendant le passage du gardien. Dans le ciel, quelques étoiles firent leur apparition et la lune, blanche et presque pleine, venait de se lever au-dessus de la crête, à l'est. « Le voici !» jeta Claude. « Ne bouge pas !» Le gardien monta le chemin à pas lents et le chien trottait à ses côtés. Nous les regardâmes passer par la trouée de la haie. « Il ne reviendra pas ce soir, » dit Claude. « Qu'en sais-tu ? Un gardien ne t'attend jamais dans la forêt s'il connaît ton adresse. Il va devant chez toi pour te voir rentrer. »« C'est plus grave !» « Non, ça ne fait rien si tu laisses ton butin chez quelqu'un d'autre, en chemin. Comme ça, il ne peut rien contre toi. »« Et l'autre, celui de la clairière, il est parti aussi. »« Ce n'est pas sûr. J'ai étudié le va-et-vient de ces salauds pendant de longs mois. Je connais leurs habitudes. Il n'y a aucun danger. » C'est à contre-cœur que je le suivis dans la forêt. Il faisait noir comme dans un four. Tout était très calme et l'écho du bruit que faisaient nos pas semblait nous revenir de toutes parts, comme si nous nous promenions dans une cathédrale. « C'est par ici que nous avons semé le raisin, » dit Claude. Je me mis à scruter les buissons. La clairière s'étalait devant nous, vague et laiteuse au clair de lune. « Es-tu sûr que le gardien est parti ? J'en ai la certitude !» C'est tout juste si j'apercevais le visage de Claude sous la visière de sa casquette. Ses lèvres blanches, ses grosses joues pâles et ses yeux bien ouverts où dansaient des étoiles. « Sont-ils perchés ? Oui, où ça ? Un peu partout, ils ne vont jamais bien loin. Qu'allons-nous faire maintenant ? « Restez ici et attendre. J'ai apporté de la lumière, » ajouta-t-il en me passant une de ces petites lampes de poche en forme de stylo. « Tu pourras en avoir besoin. » Je commençais à me sentir mieux. « Ne pourrions-nous pas essayer de les voir perchés sur leurs arbres ?»« Non. J'aimerais bien voir de quoi ils ont l'air quand ils sont perchés. »« Nous ne sommes pas à l'école, » dit Claude. « Tiens-toi tranquille. » Et nous restions debout en attendant que quelque chose arrive. « Il me vient une vilaine idée, » dis-je. « Si un oiseau peut se tenir en équilibre sur une branche en dormant, je ne vois pas pourquoi les pilules le feraient tomber. » Claude me jeta un bref regard. « Après tout, dis-je, il n'est pas mort, il dort seulement. »« Il est drogué, » dit Claude. « Mais ce n'est qu'un sommeil plus profond. Pourquoi faut-il s'attendre à ce qu'il tombe, simplement parce qu'il dort plus profondément ?» Il y eut un morne silence. « On l'a essayé avec des poulets, » dit Claude. « Mon père y a pensé. » »« Ton père était un génie, » dis-je. C'est alors que le bruit d'une chute nous parvint du bois. « Hé ! Chut !» Nous tendîmes l'oreille. « Boum ! Voilà un autre !» Ce fut un coup sourd, comme si un sac de sable venait de tomber d'une hauteur d'épaule d'homme. « Boum ! Ce sont bien eux, » m'écriai-je. « Attends, j'en suis sûr. Boum ! Boum ! Tu as raison !» Nous réintégrâmes le bois en courant. « Où était-ce ? Par ici ! Il y en avait deux !»« J'aurais dit par là, plutôt !»« Regarde bien, » dit Claude, « ils ne peuvent pas être loin !» Nous passâmes une bonne minute à chercher. « En voilà un !» fit-il. Quand je le rejoignis, il tenait entre ses mains un faisan mâle superbe. Nous nous mîmes à l'examiner de près avec nos lampes de poche. « Il est ivre drogué, » dit Claude. « Il est vivant, je sens son cœur, mais il est complètement dopé. Boum ! Encore un ! Boum ! Boum ! Encore deux ! Boum ! Boum ! Seigneur ! » Autour de nous, les faisans s'étaient mis à pleuvoir des arbres. Fiévreusement, nous fouillâmes le sol avec nos lampes de poche. Boum, 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 ces derniers, je faillis les recevoir sur la tête. Je me trouvais sous l'arbre lorsqu'ils s'abattirent et je les ramassai aussitôt, deux faisans et une faisane. Ils étaient tout mous et tout chauds et leur plumage était merveilleusement doux au toucher. « Où faut-il que je les mette ? » m'écriai-je en les tenant par les pattes. « Pose-les là, Gordon, là où il y a de la lumière. » Claude se tenait debout au bord de la clairière, baigné de clair de lune, un gros bouquet de faisans dans chaque main. Son visage était radieux, ses yeux immenses et émerveillés. Il regardait autour de lui comme un enfant qui vient de découvrir que le monde entier est fait de chocolat. « Boum ! Ça ne me plaît pas, dit-il, y en a trop. « C'est magnifique !» cria Claude. Et il laissa tomber les oiseaux qu'il tenait dans les mains pour courir en ramasser d'autres. « Boum ! Boum ! Boum ! À présent, ils étaient faciles à trouver. Il y en avait un ou deux sous chaque arbre. J'en réunis six à la hâte. « Trois dans chaque main, puis je revins en courant pour les déposer près des autres. Puis encore six, et encore six autres, et ils tombaient toujours. Claude était maintenant comme un tourbillon. Il se démenait follement sous les arbres, comme un fantôme en extase. Je voyais le rayon de sa lampe de poche onduler dans le noir, et chaque fois qu'il découvrait un oiseau, il poussait un petit hurlement de triomphe. « Boum, boum, boum !» Si le gros Hazel entendait ça, s'écria-t-il. « Ne gueule pas, dis-je, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu dis ? Ne gueule pas, il y a peut-être des gardiens. Fiche-moi la paix avec tes gardiens, ils sont en train de manger. » Pendant quelques minutes encore, il y eut d'autres chutes de faisan, puis soudain elles cessèrent. « N'arrête pas de chercher, hurla Claude, il y en a encore plein par terre. Ne crois-tu pas qu'il vaudrait mieux sortir d'ici ?»« Non, dit-il. » Nous nous remîmes à chercher sous tous les arbres, tout autour de la clairière, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à la fin. Nous en avions rassemblé un tas impressionnant, gros comme un feu de joie. « C'est un miracle !» répétait Claude, « un sacré miracle ! Il avait l'air d'être en transe. » « Vaudrait mieux qu'on en attrape une douzaine chacun et qu'on se sauve vite, dis-je. »« Je voudrais les compter, Gordon. »« On n'a pas le temps. »« Il faut que je les compte. »« Non, dis-je, viens !»« 1, 2, 3, 4, il s'était mis à les compter très consciencieusement, en attrapant chaque oiseau pour le déposer de l'autre côté. » La lune était maintenant juste au-dessus de nous et toute la clairière baignait dans une lumière éclatante. « Je n'aime pas traîner ici comme ça, » dis-je. Je fis quelques pas en arrière pour m'abriter à l'ombre en attendant qu'il ait fini. 117, 118, 119, 120, cria-t-il. 120 oiseaux, c'est le record de tous les temps. Je n'en doutais pas une seconde. Le paternel n'a jamais pu en avoir plus de 15 en une nuit, c'était le maximum. Et après, il ne dessoulait pas pendant 8 jours. « C'est toi le champion du monde, » dis-je. « Es-tu prêt maintenant ?»« 1 minute, » répondit-il. Puis il souleva son chandail, en sortit 2 grands sacs de coton blanc. « Voici le tien, » dit-il, et il m'en tendit un. « Remplis-le vite. » La lune avait tant d'éclat que je pus lire sans peine ce qui était imprimé sur le sac. « Es-tu sûr que le type aux dents noires n'est pas en train de nous épier derrière un arbre ?» « C'est impossible, » dit Claude. « Il nous attend en bas à la station-service, comme je te l'ai dit. » Nous nous dépêchâmes de fourrer les faisans dans les 2 sacs. Ils étaient doux sous la main, ils avaient le cou flasque et la peau sous le plumage était toujours chaude. « Il y a un taxi qui nous attend sur le chemin, » dit Claude. « Quoi ? Je rentre toujours en taxi, Gordon, ne le savais-tu pas ?»« Non. Un taxi, c'est neutre, » dit Claude. « Personne, à l'exception du chauffeur, ne sait qui se trouve à l'intérieur. C'est le paternel qui m'a appris ça. » « Quel chauffeur ? Charlie Kinch. Il n'est que trop content de me rendre service. » Nous finîmes de remplir nos sacs, puis nous les prîmes sur nos épaules pour nous frayer un chemin à travers l'obscurité vers la sortie du bois. « Je ne vais pas porter ça jusqu'au village, dis-je. J'ai 60 oiseaux dans mon sac, ça va chercher dans les 100 livres. »« Charlie ne m'a jamais posé un lapin, » dit Claude. Nous arrivâmes à l'orée du bois pour scruter le chemin par la haie. Très doucement, Claude dit « Charlie ». Et alors le vieil homme, au volant de son taxi, garé à 5 mètres de là, passa la tête par la fenêtre au clair de lune et nous envoya un sourire édenté. Nous nous glissâmes à travers la haie, entraînant nos sacs derrière nous. « Hola !» dit Charlie. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Des choux !» dit Claude. « Ouvre ta porte !» 2 minutes plus tard, nous étions en sécurité à l'intérieur du taxi qui descendait lentement la colline en direction du village. C'était fini et c'était le triomphe. Claude éclatait de fierté et d'émotion. Penché en avant, il ne cessait de donner des tapes sur l'épaule de Charlie Kinch en disant « Qu'en penses-tu, Charlie ?» Et Charlie ne cessait de jeter des coups d'œil en arrière sur les 2 gros sacs tout bombés qui gisaient sur le sol entre nous en répétant « Seigneur, comment as-tu fait ce coup ?»« Il y a 6 couples pour toi, Charlie, » dit Claude. Et Charlie répondit « Je suppose que le faisan va être rare à la fête de M. Victor Hazel. » Et Claude dit « C'est bien ce que je pense, Charlie. » « Que diable vas-tu faire de tes 120 faisans ? » demandai-je. « Les mettre au frigo pour l'hiver, » répondit Claude, « avec la pâtée des chiens. »« Pas ce soir, j'espère. »« Non, Gordon, pas ce soir. Ce soir, nous les laisserons chez Bessie. »« Bessie ? Bessie Organ. »« Bessie Organ ? » ?»« Bessie me donne toujours un coup de main, ne le savais-tu pas ?»« Je ne sais rien de rien, » dis-je, complètement abasourdi. Il s'agissait de la femme du révérend Jack Organ, le vicaire du village. « Il faut toujours choisir une femme respectable pour ce genre de choses, » déclara Claude, « n'est-ce pas, Charlie ?»« Bessie est une chic fille, » dit Charlie. Nous traversions maintenant le village. Les rues étaient éclairées et les gens sortaient des bistrots pour regagner leur maison. J'aperçus Will Prattley, le marchand de poissons, qui rentrait tranquillement par la petite porte de sa boutique, et je vis en même temps la tête de sa femme qui, sans être vue par lui, les pieds par la fenêtre. « Le vicaire a un faible pour le faisan rôti, » dit Claude. Il le laisse accrocher 18 jours, dit Charlie, puis il le secoue très fort et toutes les plumes fichent le camp. Le taxi tourna à gauche et entra dans la cour du presbytère. Tout y était noir et nous ne rencontrâmes personne. Nous jetâmes les faisans dans un débarras au fond de la cour, puis nous prîmes congé de Charlie Kinch pour entrer chez nous à pied au clair de lune, les mains vides. Je ne sais pas si M. Rabbit était au rendez-vous. Nous ne trouvâmes rien de suspect à signaler. « Là, voilà qui s'amène, » me dit Claude le lendemain matin. « Qui ? Bessie, Bessie Organ. » Il prononça le nom avec orgueil, comme un général qui parle du plus brave de ses officiers. Il sortit, je le suivis. « Là, » dit-il en montrant du doigt une petite silhouette très loin sur la route qui s'avançait dans notre direction. « Qu'est-ce qu'elle pousse ? » demandai-je. Claude me lança un regard malicieux. « Il n'y a qu'une seule cachette possible. C'est sous le bébé. » « Oui, murmurai-je, oui, bien sûr. Dans cette poussette, il y a le petit Christopher Organ, 18 mois. C'est un gosse adorable, Gordon. » Je ne pus distinguer qu'un petit bout de bébé trônant très haut dans sa poussette dont la capote était baissée. « Il y a au moins 60 ou 70 faisans sous ce gosse, » dit Claude, tout joyeux. « Imagine un peu. On ne peut pas mettre 60 ou 70 faisans dans une poussette. » »« On le peut, si la poussette est assez profonde, si on enlève le matelas et si le paquet est bien serré. » On met tout juste un drap par-dessus. Tu seras étonné quand tu verras comme ça prend peu de place, un faisan ramolli. Debout, devant nos pompes, nous attendions l'arrivée de Bessie Organ. C'était un lourd matin de septembre. Le ciel était sombre et il y avait de l'orage en l'air. Elle a traversé le patelin sans sourciller, dit Claude. Chère vieille Bessie. On dirait qu'elle est plutôt pressée. Claude alluma une nouvelle cigarette avec le bout de la précédente. Bessie n'est jamais pressée, dit-il. « Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne marche pas d'un pas normal. Regarde-la. » Il la lorgna à travers la fumée de sa cigarette. Puis il sortit la cigarette de sa bouche pour regarder encore. « Eh bien, dis-je, on dirait qu'elle marche un peu vite, » fit-il l'air incertain. « Elle marche drôlement vite. » Il eut un silence. Claude ne quittait plus des yeux la femme sur la route. « Peut-elle a-t-elle peur de la pluie, Gordon ?»« Oui, je suis sûre que c'est ça. Elle pense qu'il va pleuvoir et elle ne veut pas que la pluie mouille le petit. » Pourquoi ne lève-t-elle pas la capote ? Il ne répondit pas. Elle court, m'écriai-je, regarde ! Et c'était vrai. Bessie s'était mise à courir comme un zèbre. Toujours immobile, Claude guettait la femme. Et dans le silence qui suivit, je crus entendre les cris perçants du bébé. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne répondit pas. C'est le petit qui a quelque chose, dis-je, écoute. Bessie se trouvait alors à près de 200 mètres de nous. Elle courait de plus en plus vite. Tu l'entends ? Oui. « Il gueule !» La petite voix stridente grossissait de seconde en seconde, frénétique, obstinée, presque hystérique. « Il fait une crise !» déclara Claude. « Je le crois. C'est pour ça qu'elle court, Gordon. Elle veut arriver le plus vite possible pour passer de l'eau pour le passer à l'eau froide. »« Tu as sûrement raison, » dis-je, « mais écoute un peu ce bruit. Je me demande ce qu'il peut avoir si ce n'est pas une crise. »« Oui, c'est bien ça. » Claude s'agitait mal à l'aise sur le gravier. « Des milliers de choses peuvent arriver tous les jours à un bébé, » dit-il. « Bien sûr. J'en ai connu un qui a eu les doigts sectionnés par les rayons d'une roue de poussette. Il les a tous perdus. »« Oui. Quoi que ce soit, dit Claude, je souhaite ardemment qu'elle cesse de courir. » Un grand camion chargé de briques surgit derrière Bessie. Le camionneur ralentit, intrigué, et passa la tête par la fenêtre. Bessie n'en tint pas compte et accéléra encore. À présent, elle était si près de nous que je pus voir sa grosse figure rouge, sa bouche ouverte à bout de souffle. Je remarquai qu'elle portait des gants blancs, précieux et endimanchés, et un petit chapeau blanc assorti perché sur sa tête comme un champignon. Soudain, du fond de la poussette, s'envola un énorme faisan. Le bonhomme du camion à côté de Bessie éclata de rire. Un peu étourdi pendant quelques secondes, le faisan battit des ailes, puis il prit le large pour atterrir sur le gazon en bordure de la route. Un fourgon d'épicier vint derrière le camion et corna impatiemment. Bessie, imperturbable, poursuivit sa course. Puis hop, un autre faisan s'envola de la poussette. Puis un troisième, un quatrième, un cinquième. Mon Dieu, dis-je, les pilules, il se réveille. Claude ne dit rien. Bessie couvrit les derniers 50 mètres à pas de géant pour s'arrêter chancelante devant la station-service, tandis que les oiseaux s'échappaient de la poussette pour s'envoler aux quatre vents. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Cria-t-elle. Ne restez pas ici, hurlai-je, ne restez pas ici. Mais elle fonça tout droit vers la première pompe et avant même que nous l'ayons rejointe, elle avait saisi dans ses bras le bébé qui beuglait. « Non, non !» cria Claude en courant au-devant. « Ne sortez pas le petit! Remettez-le dans la poussette !» Mais elle ne l'écoutait même pas, et une fois délivrée du poids de l'enfant, un énorme nuage de faisans jaillit de la poussette. Ils étaient au moins 50 ou 60. Tout le ciel au-dessus de nous venait de se remplir de grands oiseaux bruns qui battaient furieusement des ailes. Claude et moi, nous nous mîmes alors à courir à gauche et à droite sur la route, en agitant les bras pour chasser les oiseaux loin des parages en criant « Allez, allez, décampez vite !» Mais ils étaient encore trop étourdis pour pouvoir nous obéir, et au bout de quelques secondes, ils furent de retour pour assiéger ma station-service comme un essaim de sauterelles. Tout était plein d'eux, ils étaient assis, elles contre elles, sur le rebord du toit, sur le dais de ciment qui surplombait les pompes. Une douzaine au moins s'étaient juchés sur la barre d'appui de la fenêtre. Quelques-uns avaient pris d'assaut le châssis où je gardais mes bidons d'huile, et d'autres avaient pris place sur le capot de mes voitures d'occasion. Un faisan mâle, à la queue superbe, était perché majestueusement au sommet d'une pompe à pétrole, et un grand nombre, ceux qui étaient encore trop dopés pour voler, avaient occupé la route pour se lisser les plumes en clignant des yeux. Un barrage de voitures venait de se former sur la route, derrière le camion à briques et la voiture de l'épicier. Des portières s'ouvrirent, et des gens s'approchèrent pour voir ce qui se passait. Je consultai ma montre, il était 9h20. À chaque instant, une grosse voiture pouvait passer en provenance du village, et cette voiture serait une Rolls, et au volant, il y aurait un énorme visage luisant de boucher, celui de M. Victor Hazel, fabricant de pâtés et de saucisses. « Ils ont failli le déchiqueter, » gémit Bessie en serrant le bébé contre sa poitrine. « Rentrez chez vous, Bessie, » dit Claude. Son visage était tout blanc. « On ferme, » dis-je alors. « Sors la pancarte. Nous sommes partis pour la journée. »
Thank you. Bien sûr, Radio Grand Ciel, 107 à Châteaudun.
It's very clear, our love is here to stay. Not for all year, but ever and a day. Oh, the radio and the telephone. That we know may just be passing fancies, and then time may go. But oh, my dear, our love is here to stay. Together we going on a long, long way. In time, the rockets may crumble, Gibraltar may tumble, they only made of clay. But our love is here to stay.
Take it out.
It's very clear, our love is here to stay.
Together we go.